13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Une fin d'année sous Covid, la course aux autotests d'abord, pratique et rassurant avant les réunions de famille, certaines pharmacies commencent à en manquer. Pourra-t-on vacciner les enfants avant Noël? La Haute Autorité de Santé donne son avis aujourd'hui. Le pass sanitaire sera-t-il appliqué en entreprise en janvier? Réunion ce matin, pas de décision, syndicats et patronats sont contre. Et quelles sont les consignes pour cette fin d'année dans les maisons de retraite? On en parle avec la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, dans ce studio. Quand la gauche se rassemble et gagne la présidentielle, ça se passe au Chili. Gabriel Boric, 35 ans, est élu. Quand la gauche divisée se trouve bloquée, aux États-Unis, Joe Biden n'a pas la majorité pour faire adopter son plan d'investissement. Il lui manque une voix. Dans ce journal encore, la plainte d'une association contre le préfet maritime pour homicide involontaire près d'un mois après le naufrage et la mort de 27 migrants en Manche. Les 100 sites qui vont toucher cette année le loto du patrimoine. Et puis la mésaventure du jour, une scène de chasse qui sort des bois et se termine chez ce monsieur. Grand bruit de vitres cassées et puis...
Je vois un sanglier dans ma chambre. Il s'est mis entre le lit et le mur. Et j'ai même pensé dans le moment... Si j'avais le temps de mettre des baskets, que j'étais pieds nus, et j'ai pensé non, j'ai pas le temps.
Voilà, vous aurez toute l'histoire tout à l'heure. Vos rendez-vous dans le 13-14 à 13h30. Notre invité est le directeur général de Médecins Sans Frontières en France, MSF. Fête ses 50 ans. En quoi l'action humanitaire a-t-elle changé? Lutte contre le Covid, aide aux migrants, intervention dans les pays en guerre. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le feuilleton à l'approche de Noël, une semaine dans la vie d'un prêtre. Le vif de l'histoire, les premières manifestations anti-OAS il y a 60 ans. Et puis la musique, cette semaine du classique avec Anna Sigalevitch, La vie serait moins belle sans. Les invités d'Anna répondent. Aujourd'hui, Elise Moon. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et vous faites quoi avant Noël? Une dose de vaccin? Un test? Lequel? Ou rien de tout cela peut-être? Tout s'accélère à 4 jours du réveillon. L'épidémie d'abord. Les chiffres restent orientés à la hausse. Près de 3000 personnes en soins critiques. 50 000 nouveaux malades quotidiens en ville. La crainte du moment, c'est que les deux vagues se superposent, Delta et Omicron. Côté vaccination, l'un des chiffres clés de la matinée, c'est le nombre de prises de rendez-vous pour une première injection. Est-ce l'effet de la perspective d'un pass vaccinal à partir de fin janvier? Le nombre de rendez-vous a plus que doublé d'un week-end à l'autre, à des niveaux assez bas, c'est vrai. Ce qu'on sait d'Omicron à ce stade, la vaccination à 2 doses est nettement moins efficace contre lui, mais la 3e dose change les choses. Taux de protection 76% avec un triple Pfizer par exemple, mais ce ne sera jamais du 100%. Alors à l'approche des fêtes, c'est la course aux tests, autotests en particulier, qui commence à manquer. Illustration dans cette pharmacie du centre-ville de Strasbourg. Jules Hausse, France Bleu Alsace.
Depuis le début de la matinée, ceux qui rentrent dans l'officine sans demander à se faire tester sont rares. Derrière la caisse, Tamara Prophète enregistre surtout des demandes de tests antigéniques. Mais depuis 2 semaines, de plus en plus de clients optent aussi pour l'autotest.
Voilà, ça fait 2 heures qu'on est ouvert, on a quand même vendu 46 autotests. C'est un petit record quand même.
Un succès nouveau pour cet outil qui est pourtant présent depuis plusieurs mois dans les rayons de la pharmacie.
Il y en a qui voyageaient, du coup qui voulaient quand même avoir, je pense, l'option autotest. Mais il n'y avait pas, c'était pas pareil. Alors on demande ça des autotests, oui, ça fonctionne. Commun pour le week-end, pour les fêtes, avant les repas de Noël. Donc là, il y a un engouement.
L'avantage de l'autotest, c'est qu'on peut le faire quand on veut, à la maison. Le plus souvent, les clients en achètent donc plusieurs. Rachel, par exemple, est sortie de la pharmacie avec 5 boîtes.
Pour nous et puis pour ceux qui n'en auront pas éventuellement le soir de Noël.
L'autotest est désormais victime de son succès. Sophie a été missionnée par sa fille qui habite à Paris pour qu'elle lui en déniche un avant son retour.
Ça fait 6-7 pharmacies qu'elle fait, elle n'en trouve pas. Pour son arrivée, elle veut se tester avant de la réunion de familiale.
Le précieux sésame coûte moins de 5 euros. Il est recommandé uniquement quand vous n'avez pas de symptômes. En cas d'autotest positif, vous devez vous isoler et compléter le diagnostic avec un test PCR.
À propos de la vaccination sur la population adulte, quelle que soit la tranche d'âge, on est à près ou plus de 90% des personnes complètement vaccinées. Pour les 12-17 ans, c'est plutôt 80%. Comment convaincre ceux qui sont encore réticents? Il reste entre 5 et 6 millions de personnes éligibles et qui n'ont pas reçu une seule dose. Le président du comité d'orientation de la stratégie vaccinale, le professeur Fischer, était ce matin l'invité de France Inter avec plusieurs arguments. Il faut, dit le professeur Fischer, écouter ce que disent les médecins réanimateurs, écouter le récit aussi de ce qu'ils voient dans les services.
En particulier pour les moins de 65 ans, la majorité des gens sont non vaccinés. Au-delà de 65 ans, presque un tout petit peu moins de la moitié sont non vaccinés. Et encore une fois, les autres, ce sont beaucoup de personnes fragiles qui répondent mal à la vaccination. Que les personnes non vaccinées comprennent d'abord que c'est leur propre intérêt, même si pour beaucoup ils sont jeunes, ils pensent qu'il n'y a pas de risque, mais de temps en temps, malheureusement, il y a quelques personnes jeunes qui font des formes graves de la maladie. Et puis, il y a un minimum de notion de solidarité. J'ai évoqué tout à l'heure les personnes immunodéprimées, elles sont à peu près 350 000 en France, des gens en traitement pour certains cancers, des patients qui ont reçu des greffes d'organes, des personnes qui sont en dialyse, etc. etc. Ces personnes-là, elles sont mal protégées par le vaccin. Leur sécurité dépend des autres. Nous devons, nous, qui ont la chance d'être en bonne santé, nous vacciner pour nous-mêmes, mais aussi pour eux. C'est le minimum de solidarité que nous devons à nos concitoyens fragiles.
Alain Fischer avec Jérôme Cadet et Alexandra Ben Saïd ce matin sur Inter. Et puis, c'est aujourd'hui que la Haute Autorité de Santé doit donner son avis sur la vaccination des 5-11 ans. Si c'est un feu vert, cela pourrait commencer dès après-demain. Ça, c'est pour les plus jeunes. Du côté des aînés à présent, comment aborde-t-on Noël dans les EHPAD? Quelles consignes? Quel niveau de vaccination? Invitée de ce journal, la ministre déléguée chargée de l'autonomie. Bonjour Brigitte Bourguignon.
Bonjour.
Environ 7500 EHPAD en France pour 700 000 résidents. On entend moins parler de foyers d'épidémie dans les EHPAD. Est-ce qu'avec Omicron, à nouveau, on détecte des clusters dans les maisons de retraite?
Alors, c'est pas encore déterminant que ce soit Omicron. C'est tout simplement que pour l'instant, le schéma vaccinal a donné ses effets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des résidents parfaitement vaccinés qui ont même, le rappel, plus de 85% aujourd'hui dans les résidents. Et puis le personnel également qui accompagne leurs résidents la plupart du temps dans ce schéma vaccinal qui fait le bouclier sanitaire finalement autour de ces résidents. Donc aujourd'hui on sait que les maladies ne se développent plus avec autant de gravité au sein de cette tranche de population et c'est très important.
Pas ou très peu de foyers,
nous avons 4% d'EHPAD aujourd'hui qui ont témoigné d'un cluster, c'est-à-dire 3 cas positifs dans un établissement. Donc nous recommandons la plus grande vigilance. Tout comme pour tout citoyen, les protocoles doivent être respectés.
Dans ces cas-là, que se passe-t-il quand on a 3 patients malades, 3 résidents malades?
Alors dans ce cas-là, on isole bien sûr les cas, on suspend un peu la visite, le temps d'avoir testé tout le monde, de bien vérifier que ça ne prolifère pas dans l'établissement, c'est tout à fait normal, comme on le ferait partout, et comme nous sommes nous-mêmes en train de le faire, c'est-à-dire que si nous sommes cas contact, nous nous isolons. Donc c'est exactement la même règle qui s'applique, nous voulons que ce soit des règles de droit commun qui s'applique à ces personnes parce que en plus elles ont bénéficié de cette couverture vaccinale.
Pour les visites, on revient sur la vaccination notamment des personnels soignants dans un instant. D'abord pour les visites de fin d'année et les sorties de fin d'année, quelles seront les règles, Madame Bourguignon? Visite possible actuellement dans les chambres comme dans les espaces collectifs. Il n'y a pas de restriction pour les sorties. Est-ce que ça c'est maintenu?
Oui, c'est maintenu. Nous l'avons réitéré ce matin et d'ailleurs les autorités scientifiques nous incitent à le faire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de raison d'isoler dès lors qu'il n'y a pas de cluster ou de cas dans l'établissement et donc permettre à ces personnes de se retrouver. Ça, c'est tout à fait normal avec tout ce que ça implique comme protection, bien sûr, comme vigilance sur les gestes sanitaires à respecter, sur le test au retour lorsqu'il y a une sortie défectuée.
Voilà. Un résident qui fait une sortie doit se faire tester avant
de
revenir.
C'est ça, pour éviter évidemment qu'il ne fasse rentrer le virus dans l'établissement. C'est la même chose pour les soignants, c'est-à-dire que s'ils partent en congé, lorsqu'ils reviennent, ils doivent se soumettre à un test, mais tout le monde accepte ces règles aisément, parce que ça leur permet cette vie sociale retrouvée. Et c'est d'ailleurs ce qui a aussi été l'engouement pour ces résidents, qui ont tout de suite participé à la campagne vaccinale dès le début, dès la première dose, parce qu'ils souhaitaient vraiment retrouver leur famille.
Et pour les visiteurs, passe sanitaire, évidemment.
Alors, passe sanitaire exigé, bien sûr, et on demande aux familles d'être très compréhensives, dans un moment de tension, dans un moment de vigilance accrue, à ce que ils respectent eux-mêmes toutes ces règles que nous mettons simplement, non pas en place parce qu'elles sont toujours les mêmes, mais que nous demandons à redoubler de vigilance sur ces sujets-là.
Au-delà du bon sens, évidemment, pas de limite de nombre de visiteurs si on veut venir à 4 ou 5, je ne sais pas, pour Noël, pour voir son grand-père, sa grand-mère. Est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre de visiteurs?
Alors, tout ceci repose un peu quand même sur l'intelligence collective la compréhension, parce que vous l'avez vu, chez nous, déjà, on réfléchit à ces jauges-là, déjà chez nous, on se dit, est-ce que c'est prudent d'être à 15 ou 20? il est bien recommandé de ne pas susciter de rassemblements trop importants. C'est la même chose pour ces établissements. Il va de soi que ça dépend aussi de la configuration de l'établissement. Si ce sont des petites chambres, vous n'imaginez pas être 15 dedans. Donc on demande du bon sens à chacun et de la responsabilité à chacun.
Ces règles ne bougeront pas d'ici à la fin de l'année où l'évolution de la situation sanitaire, et on sait que ça va très très vite en ce moment, pourrait vous amener d'ici à la fin de l'année à durcir les règles.
Bien sûr, ces règles s'adaptent au fil de la gestion sanitaire de la crise. Vous l'avez vu, à chaque fois, on a pris des réponses proportionnées, c'est-à-dire qu'on a ouvert de plus en plus au fil du moment où la vaccination est arrivée, où nous avons vacciné massivement en premier les personnes les plus vulnérables. C'était la stratégie qui quelquefois avait été dénoncée alors que vous voyez bien qu'elle était nécessaire. Et aujourd'hui, bien sûr que si la situation devait évoluer dramatiquement, et nous les espérons tous que non, c'est bien parce qu'on veut que Noël entre, mais dans toute la vigilance requise, que nous réitérons ces règles.
Schéma vaccinal complet pour 85% des résidents, nous disiez-vous il y a un instant. Combien pour les soignants ?
On était à plus de 90% de personnel vacciné, voire même presque 100% dans la plupart des établissements, puisque vous le savez qu'ils sont soumis aujourd'hui à une obligation vaccinale de toute façon. Donc nous étions arrivés à la couverture maximale. Maintenant, nous sommes à plus de 40% de troisième dose, hein, parce que ça a commencé plus tard, évidemment. Les chiffres ont doublé cette semaine, donc ils sont tous en train de se faire vacciner. Les établissements permettent en plus la vaccination des soignants dans leur établissement, donc ça va accélérer les choses et nous fixons jusque fin janvier pour faire cela.
C'est ça, la règle, c'est fin janvier, la troisième dose devra avoir été administrée fin janvier, on en est à 40%, vous pensez que ça va passer ?
Ah oui, il y a vraiment là aussi une grande responsabilité des personnels. Vous savez, on a beaucoup parlé à un moment que l'obligation ferait que des personnels démissionneraient massivement, partiraient, etc. Ce n'est pas le cas. Moi, je voudrais saluer franchement la grande responsabilité dont chacun fait preuve. Et parce qu'on l'oublie souvent, ce sont des personnels qui aiment leur métier et qui aiment les personnes dont elles ont la charge.
Comment explique-t-on qu'on en soit tout de même qu'à 40%, ce qui est au-delà de la moyenne en population générale pour les personnes éligibles, il y a toujours des réticences d'une partie des personnes.
Pas du tout. Quand je dis 40%, c'est pour la troisième dose.
Oui, j'ai bien compris.
Donc, ils sont à 100% vaccinés. D'ailleurs, ils seraient suspendus si ce n'était pas le cas. Donc, je rappelle
Mais je parlais de la troisième dose.
Et la troisième, elle est en... Parce qu'ils ont démarré plus tard, vous savez, puisque ce n'était pas ouvert à tout le monde au départ et qu'il y avait une question d'âge et même de temps entre la deuxième et la troisième dose. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Tout a été ouvert. Donc, ils sont en train de se faire vacciner massivement.
Et donc, pas d'inquiétude de votre part sur ce point. Dans sa dernière note, le conseil scientifique recommande de tester quotidiennement les soignants qui n'ont pas encore leur dose de rappel. Est-ce que cette recommandation sera appliquée ?
Alors, pour l'instant, nous ne l'avons pas mis dans les règles que nous envoyons aujourd'hui dans les établissements, mais si ça doit être appliqué parce que, évidemment, on a ce temps de latence et qu'il y a ce virus qui se propage de manière très rapide, alors oui, il faut le faire.
Merci Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, d'être venue dans les studios de France Inter à propos de la situation dans les EHPAD. Et donc, à ce stade, pas de changement de règles pour passer les fêtes Noël. Pas encore passées, mais déjà, des mesures de contrôle supplémentaires sont envisagées pour le mois de janvier. Ailleurs, le pass vaccinal à la place du pass sanitaire. Autrement dit, l'obligation d'être vacciné pour aller au restaurant, dans les lieux de culture, tous ceux actuellement soumis au pass sanitaire. Ce serait donc, le cas échéant, le cas des maisons de retraite, madame Bourguignon ?
Oui.
Ça doit être validé par le Parlement. Le gouvernement table sur une entrée en vigueur fin janvier. Et puis, autre proposition sur la table, quel est son degré de fermeté ? Le pass sanitaire en entreprise, hypothèse avancée par Olivier Véran samedi sur France Inter. Réunion chez Elisabeth Borne, la ministre du Travail, avec les partenaires sociaux à ce sujet ce matin. Elle s'est terminée sans qu'aucune décision ne soit prise. Les syndicats, comme les représentants des dirigeants d'entreprise, sont contre, si l'on en croit Force Ouvrière. Parole de syndicaliste Philippe Martinez pour la CGT.
Nous préférons renforcer les gestes barrières, inciter plus à la vaccination plutôt que l'instauration de ce pass qui correspond à une obligation vaccinale. Bien sûr, ça changerait beaucoup de choses puisque ça pose plusieurs questions. C'est qui va contrôler ce pass, comment ça va se faire dans les entreprises, évidemment avec les questions de secret médical. Donc il y a d'autres questions qui sont posées avant cette obligation que nous contestons.
Voilà, à propos de Philippe Martinez, recueilli par nos confrères de France Info. Du côté des dirigeants d'entreprise, écoutez Benoît Serre, association des DRH. Il était ce matin l'invité de Laetitia Gaillet sur France Inter. Il préfère des solutions plus ciblées à un pass global.
Ça paraîtrait pas totalement illogique, par exemple, qu'on impose le pass sanitaire pour entrer dans le restaurant d'entreprise. Parce qu'on sait que ça, c'est un lieu où les gens retirent les masques, évidemment. Les gestes barrières sont un peu moins respectés. On pourrait aussi imaginer ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, hein. de dire à des collaborateurs, la réunion de plus de 30 personnes, vous ne pourrez y accéder que si vous présentez un pass sanitaire. Autrement dit, je pense que c'est plus pertinent d'avoir une approche ciblée sur des endroits dangereux, plutôt que généraliser à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur configuration de locaux, quelle que soit leur activité.
Voilà, Benoît Serre ce matin sur France Inter, et puis le Forum économique de Davos, prévu en janvier, reporté au début de l'été à cause de la situation sanitaire. Davos qui sera un peu moins dans le froid que d'habitude. Au moins une dose de vaccin obligatoire en entreprise, ce sera la règle en tout cas à New York à partir de lundi prochain. Dans l'Union européenne, y aura-t-il bientôt un cinquième vaccin disponible après Pfizer, Moderna, Janssen et AstraZeneca? L'Agence européenne du médicament se prononce aujourd'hui sur le produit de Novavax. À propos de l'Europe, les experts qui conseillent le gouvernement allemand appellent à de nouvelles mesures de restriction et vite. Et puis de l'autre côté de la Méditerranée, en Israël aussi, on durcit les mesures. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Frédéric, en direct de Jérusalem, le Premier ministre Naftali Bennett était à la télévision hier soir. Nouvelles restrictions sur les voyages, une série de pays européens, dont la France, passe en liste rouge.
C'est ça, depuis minuit, les Israéliens n'ont plus le droit de se rendre en France, sauf autorisation spéciale. Et ceux qui viennent de France, les Israéliens ou bien les étrangers résidant ici, eh bien, ils devront respecter une quarantaine de 7 à 10 jours chez eux, après une première nuit à l'hôtel et passer 2 tests PCR.
Et la France n'est pas le seul pays concerné.
Non, les pays d'Afrique subsaharienne et la Grande-Bretagne étaient déjà classés rouges. On ajoute donc la France, mais aussi l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les pays scandinaves et 2 alliés d'Israël. Un récent, les Émirats arabes unis, et le grand allié historique, les États-Unis, qui passent en rouge mercredi. Les États-Unis, deuxième communauté juive au monde, Bruno.
Symbole et décision importante, Israël se referme donc à quelques jours de Noël, Frédéric.
Oui, depuis mars 2020, les frontières n'ont été ouvertes aux touristes que pendant 3 semaines. C'est donc le deuxième Noël sans pèlerins étrangers qui s'annonce. Une catastrophe économique pour les professionnels, nous dit le maire de Nazareth, Ali Salam.
Cela fait 2 mois que nous préparons les festivités de Noël. Il est regrettable que tout le pays soit fermé. Personne ne peut venir de l'étranger. Il y a seulement du tourisme intérieur. Nous ne recevons pas un shekel du gouvernement. Notre situation est très difficile. Nous n'avions jamais vu ça. On ne sait pas comment on peut continuer.
Le Premier ministre israélien l'affirme, la 5e vague est bel et bien là. Il encourage à amplifier la vaccination des enfants des 5 ans.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Ajoutons que le Japon vient d'adopter un budget record pour financer le plan de relance anti-Covid. Cette relance va-t-elle être grippée par le variant Omicron? Les investisseurs à la bourse semblent inquiets. Le CAC 40 perdait plus d'1% en milieu de matinée. Et puis le Covid n'épargne pas les stars, même dans la force de l'âge. Le tennisman Rafael Nadal annonce qu'il est positif. Eh bien ça y est, la gauche a trouvé son candidat pour remporter l'élection présidentielle. Il rassemble sur son nom le Parti communiste notamment, il mate l'extrême droite, il veut faire participer les plus riches aux mesures pour un meilleur accès à la santé, l'éducation, la retraite. Et Emmanuel Macron a l'air d'un vieux barbon. À côté de lui, il a 35 ans. D'ailleurs, la jeunesse est derrière lui. Ça se passe loin de France. Et oui, au Chili, Gabriel Boric a remporté hier le second tour de la présidentielle, près de 56% des voix, face à son adversaire d'extrême droite, José Antonio Kast. Portrait du vainqueur, Justine Fontaine à Santiago.
Il y a 10 ans seulement, Gabriel Boric était encore étudiant. Barbe noire et look de rocker un peu négligé. C'était l'un des leaders des manifestations pour la gratuité de l'éducation en 2011. 2 mandats de député plus tard, il a commencé la course à la présidentielle en remportant cette année la primaire de la gauche.
Nous pouvons dire aujourd'hui, avec beaucoup de joie et d'espoir, comme nous l'avons répété sur les places de notre pays, jusque dans les villages les plus isolés, que si le Chili a été le berceau du néolibéralisme, il sera aussi sa tombe.
Une référence directe aux manifestations de la fin 2019 contre les inégalités sociales et contre le modèle économique hérité de la dictature. Le député de gauche Gonzalo Winter, 34 ans, est un ami de Gabriel Boric.
Il y a une rupture entre d'une part la génération qui par goût ou par obligation a accepté le néolibéralisme et d'autre part notre génération qui s'y oppose.
Enfin, Gabriel Boric a été une figure clé pour l'organisation d'un référendum l'an dernier afin de remplacer la constitution actuelle imposée sous la dictature. Paris réussit, là encore, puisqu'un nouveau texte pourrait bien être adopté dès l'an prochain. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Et Gabriel Boric succédera à l'actuel président de droite, Sébastien Piñera, le 11 mars. Les ennuis commenceront alors. Il va falloir négocier chaque réforme, puisque la gauche n'a pas la majorité au Parlement de Santiago. En tout cas, à gauche en France, on se réjouit de ce succès. Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ont publié des messages de félicitations. La gauche qui gagne ou bien la gauche qui se divise, et à cause de cela est réduite à l'impuissance. Ça, c'est aux États-Unis. Nouveau coup dur pour Joe Biden. L'un de ses plans d'investissement majeur, Build Back Better, le social, l'économie verte, ce plan est bloqué par un élu de son propre camp. Pour qu'il passe au Sénat, où la majorité démocrate est plus qu'étroite, il faut toutes les voix. Mais le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, a annoncé ce week-end qu'il ne voterait pas le plan, Bertrand Galichet.
Le sénateur démocrate pourrait être le grain de sable qui bloque le projet d'investissement de 1750 milliards de dollars voulu par le président Biden. Beaucoup trop cher dans la situation actuelle, estime le sénateur de Virginie-Occidentale, qui ne se voit pas justifier cette loi auprès de ses électeurs. Une décision annoncée sur Fox News, chaîne très virulente à l'égard du président américain.
J'ai fait tout ce qui était humainement possible et les préoccupations que j'ai eues et que j'ai toujours sont l'inflation. Ça n'a rien de passager, c'est réel. Ensuite, vous avez la dette qui atteint 29 000 milliards de dollars. Vous avez le variant du Covid. Donc, quand vous avez toutes ces choses qui en sont à ce point-là, si je ne peux pas rentrer chez moi et expliquer cette loi aux gens de Virginie-Occidentale, je ne peux pas la voter. C'est non.
Des propos qui traduisent les tensions au sein des élus démocrates. Dans un communiqué, le sénateur Joe Manchin ajoute une pique supplémentaire. Mes collègues démocrates sont déterminés à remanier profondément notre société d'une façon qui la rend encore plus vulnérable aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. La Maison-Blanche estime que le sénateur démocrate viole ses engagements envers le président et Bernie Sanders, figure de la gauche américaine, accuse Joe Manchin de manquer de cran.
Est-ce une nouvelle étape dans la guerre en Éthiopie et au Tigré? Les rebelles du Tigré qui avaient avancé dans les régions voisines ces derniers mois disent être en train de se replier vers leur région. Ils veulent ouvrir la porte à l'aide humanitaire. À propos d'aide humanitaire, à 13h30, notre invité est le directeur général de Médecins Sans Frontières en France, MSF, qui fête ses 50 ans. Où sont les priorités? Où est l'aide humanitaire aujourd'hui? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour toutes vos questions. Ils ne veulent pas laisser passer sans réponse de la justice la mort de 27 personnes en mer. Près d'un mois après le naufrage de migrants en Manche, l'association Utopia 56 porte plainte contre le préfet maritime de la Manche et contre deux responsables des secours, l'un côté français, l'autre en Grande-Bretagne. Laurélie Carrive, des appels de détresse n'auraient pas été suivis d'effet.
Oui, selon l'association, de part et d'autre de la Manche, les secours ont joué cette nuit-là une funeste partie de ping-pong, se renvoyant mutuellement la responsabilité d'intervenir, malgré les appels de détresse répétés des exilés sur leur canot pneumatique qui était en train de prendre l'eau. Utopia 56 s'appuie notamment sur les témoignages de deux rescapés, diffusés par le média kurde Rudao, dont celui de Mohamed Sheikh Ahmad.
On a communiqué à la police française notre localisation. Ils nous ont dit « Vous êtes en eau britannique ». Dans les eaux britanniques, nous avons appelé la Grande-Bretagne. Ils nous ont dit d'appeler la police française. Deux personnes passaient les appels, l'un vers la France, l'autre vers la Grande-Bretagne. La police britannique ne nous a pas aidés. La police française a dit « Vous êtes en eau britannique, nous ne pouvons pas venir ».
Plusieurs appels reçus par les familles des victimes confirment ce scénario. Des messages envoyés vers 2h45 évoquent une panne de moteur et l'attente des secours. Pourtant, selon cette plainte, le Cross Greenet qui coordonne les actions de recherche et de sauvetage côté français n'aurait lancé les opérations que l'après-midi vers 14h après le signalement d'un bateau de pêche qui avait aperçu des cadavres en mer. Pour Utopia 56, ce drame aurait pu être évité. L'avocat de l'association espère donc que les juges d'instruction qui ont été désignés il y a 3 jours s'empareront également de cet aspect dans leurs investigations.
Près de Calais, sur la zone d'activité de Transmark, en tout début de journée, c'est un migrant de 16 ans qui est mort après un accident avec un poids lourd. La prime inflation, 100 euros pour compenser la hausse des prix, a commencé à être distribuée en France la semaine dernière. 38 millions de Français doivent la toucher. Mais il y a un petit raté au démarrage pour les indépendants et salariés à domicile. Près de 4 millions d'indépendants, auto-entrepreneurs compris, y sont éligibles. Et 90% des salariés à domicile, ils gagnent moins de 2000 euros net par mois. C'est l'URSSAF qui verse la prime. Mais pour une partie des personnes éligibles, eh bien l'URSSAF n'a pas reçu les coordonnées bancaires, Fabien Cazot.
Ce sont au total 500 000 salariés à domicile et autant d'indépendants, parmi lesquels de nombreux auto-entrepreneurs qui manquent à l'appel. On cause un problème d'actualisation qu'il est encore possible de corriger. Il suffit pour cela de renseigner ses coordonnées bancaires sur le site de l'URSSAF ou, pour les salariés à domicile, selon leur statut, de se rendre dans l'espace dédié CESU ou page emploi. L'indemnité inflation sera versée dès aujourd'hui à 380 000 d'entre eux qui ont déjà renseigné leurs espaces personnels. 700 000 auto-entrepreneurs bénéficieront également du versement des 100 euros mercredi, après déjà 660 000 indépendants la semaine dernière. Plus des trois quarts y ont droit, ce qui représente en tout 3 millions de personnes en France. Encore faut-il que l'URSSAF sache sur quel compte effectuer le virement. Les entreprises, elles, le font directement sur les comptes sur lesquels elles versent déjà les salaires. L'URSSAF compte mettre en place dans les prochains jours une campagne de relance pour sensibiliser l'ensemble des travailleurs indépendants.
La mésaventure du jour. À présent, ça se passe à Languedias, près de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Un habitant de la commune a vu débouler dans sa chambre, j'ai bien dit dans sa chambre, un sanglier poursuivi par une meute de chiens. La victime de cet épisode de chasse largement sorti des bois s'appelle Arthur Mendes dos Santos, il raconte.
J'entends un bruit énorme, les vitres qui s'éclatent, la fenêtre cassée. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'il y avait des cambrioleurs qui étaient en train de rentrer dans la maison. Et quand je rentre dans la chambre où le carreau est cassé, je vois un sanglier dans ma chambre. Il s'est mis entre le lit et le mur. Ben, j'ai pris toutes mes forces et j'ai essayé de partir. Et j'ai même pensé dans le moment, si j'avais le temps de mettre des baskets, que j'étais pieds nus. Et j'ai pensé, non, j'ai pas le temps. Le sanglier, il arrive, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai ouvert la fenêtre la plus proche. J'ai sorti, je vois les chasseurs sur la route. Je leur dis que le sanglier est chez moi. Il y avait une vingtaine de chiens, tous dans la maison avec le sanglier à se battre. Le sanglier, il a parcouru toutes les pièces de la maison. Il m'a mis du sang par tous les murs, par terre, contre les vitres. Et le chasseur l'a réussi de faire reculer, ouvrir une des belles vitrées. Et le sanglier, alors, il a gagné toutes ses forces et il s'est fui dehors. Après, il m'a laissé une odeur horrible.
Propos recueillis par Béatrice Duguet. La nouvelle moisson de site lauréat du Loto du patrimoine est rendue publique aujourd'hui. 100 bâtiments vont recevoir jusqu'à 300 000 euros pour des travaux de restauration. Alors, sur cette liste, il y a notamment l'église Notre-Dame de l'Assomption en Isère, le château de Tolle dans l'Ain, le théâtre du château de Valençay dans l'Indre, ou encore le fort des Rousses dans le Jura, qui abrite une cave d'affinage du comté. Ces 50 000 mètres carrés de cave, construit cela en 1843 par Napoléon. C'est le deuxième plus grand fort de France après celui du Mont Valérien, le fort des Rousses. 3 km de rempart, très abîmé. La restauration va permettre de sauver le site. Delphine Gallois est la première adjointe à la mairie des Rousses en charge du patrimoine.
Nous sommes effectivement très très heureux d'avoir été sélectionnés par la Fondation du patrimoine et la Mission Berne. Pour nous, petite commune des Rousses, c'est une très bonne nouvelle. Le fort des Rousses, c'est un site emblématique de toute la région Bourgogne-Franche-Comté, situé à 1150 mètres d'altitude, proche de la frontière suisse. C'est un patrimoine important. Le site était menacé. Ses remparts se sont abîmés avec le temps à cause de la végétation, des infiltrations, du gel qui fait sauter les pierres et puis qui provoque d'importants éboulements qui rendent dangereux le site, puisque les douves en fait du fort accueillent régulièrement de nombreux visiteurs, des promeneurs. Le montant des travaux est très important, il avoisine les 3 millions d'euros. C'est pour ça que nous avions vraiment besoin de soutien et d'aide, et la souscription du patrimoine est lancée auprès de toutes les entreprises qui veulent se manifester, les particuliers qui souhaitent aussi participer, mettre un petit peu leur pierre à l'édifice.
Propos recueillis par Isabelle Pasquier. Dans un instant, la météo particulièrement attendue en cette période de vacances, puis l'invité du 13-14, le directeur général de Médecins Sans Frontières en France.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour, c'est Denis Brognard, parrain de la Fondation ARC. Le cancer reste aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Au sein de la Fondation, notre vœu le plus cher est de guérir plus de malades. Si on se mobilise, nous avons le pouvoir de faire progresser cette recherche pour permettre de guérir 2 cancers sur 3 d'ici 2025. Alors je compte sur vous. Donnez aux chercheurs les moyens d'agir en faisant un don sur donner.fondation-arc.org. Un immense merci à vous.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est gris au nord, soleil au sud.
Oui, entre le nord-ouest, le nord-pas-de-Calais, le bassin parisien, le centre-val de Loire, le Val-de-Saône et le Lyonnais, on garde un ciel bien gris. Entre les Ardennes et l'Alsace, de petites éclaircies tentent tout de même leur chance. Le long de la Garonne, la grisaille fait de la résistance. Sur l'ouest de la Corse et sur le littoral du Languedoc-Roussillon, ça reste nuageux cet après-midi. Et puis sur les autres régions du sud, sur le Jura également, le soleil domine. Il y a du vent sur le sud-est, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Les températures, elles affichent souvent 5 à 8 degrés, 0 à 6 du nord-est vers le massif central et Rhône-Alpes, 8 à 15 tout de même du Pays Basque à la Méditerranée. Demain, on aura des gelées très fréquentes le matin. Et puis après la grisaille, le soleil se montrera plus qu'aujourd'hui, sauf près de la Méditerranée, ça restera nuageux toute la journée.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Cela fait 50 ans qu'elle soigne ceux qui ont besoin d'aide médicale dans le monde entier. Médecins sans frontières, l'organisation célèbre son demi-siècle d'existence cette semaine. En quoi l'action humanitaire a-t-elle changé en 50 ans? Où sont les priorités de MSF aujourd'hui? Je vous attends au standard 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter. MSF revendique aujourd'hui 64 000 membres et salariés dans 80 pays. Le budget est de plus d'1,5 milliard d'euros. Bonjour Thierry Alafort du Verger.
Bonjour.
Directeur général de Médecins sans frontières en France. Tiens, puisqu'on fête les 50 ans, un peu d'histoire, dans quelles conditions naît MSF?
MSF, alors, né en exactement en 71. Mais il y a une histoire avant MSF, qui est l'histoire du Biafra.
Oui.
Ou des collègues de la Croix-Rouge, hein, qui seront les gens qui fonderont après MSF, se rendront sur place au moment de cette guerre au Biafra.
Ouais.
Et donc c'est de là qu'ils reviendront avec l'idée de fonder Médecins sans frontières. Ça prendra un certain nombre d'années finalement, ouais. Et la création en 1971.
Deux événements fondateurs, cette guerre et la famine au Biafra, et je crois des inondations monstres au Pakistan à l'époque.
Tout à fait.
Vous avez vous-même effectué beaucoup de missions. Une mission qui vous a marqué?
Beaucoup de missions m'ont marqué. J'ai commencé MSF il y a 30 ans, donc ouais. Ça fait déjà un petit moment, hein, si je devais en citer une. Revenons sur celle du Congo-Brazzaville, c'est l'année ouais. Où on a eu le prix Nobel de la paix.
Donc en 99.
Ouais. Et j'étais un des porte-parole, chef de mission, comme on appelle ça chez nous, à Brazzaville. Et j'étais un des porte-parole, le bureau de Paris m'avait demandé d'être un des porte-parole auprès des journalistes. Et en fait, ce que ça m'a fait d'avoir le prix Nobel, c'était surtout de pouvoir parler de cette crise-là. C'était au moment du ouais. conflit du Kosovo.
Ouais.
Et personne ne parlait de ce qui se passait au Congo-Brazzaville. Très, très peu de journalistes s'étaient déplacés. Et on voyait une violence énorme, beaucoup d'enfants mourir de malnutrition, énormément de femmes qui étaient violées. Hein. C'est de là où on mettra en place petit à petit une prise en charge des femmes violées, une prise ouais. en charge médicale et psychologique des femmes violées, qu'on apprendra petit à petit à faire ce travail. Donc voilà, pour en citer qu'une, mais il y en a de nombreuses.
Et le Nobel a permis la médiatisation, il la permet encore aujourd'hui, ça reste un porte-voix le Nobel, et deux, un bouclier éventuellement quand vous intervenez en terrain dangereux.
Non, je pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui le prix Nobel, mais le prix Nobel a vraiment fait, faire un pas médiatique, sûrement à Médecins sans frontières, d'autres sûrement, et la prise en charge d'Ebola ces ouais. dernières années. Donc c'est vrai que MSF de ses débuts, hein, c'est quelques journalistes et médecins avec ce goût de l'aventure et les choix qu'ils auront fait, et puis l'organisation dont vous avez parlé, hein, 65 000 personnes ouais. aujourd'hui dans plus de 80 pays. Donc ça n'a plus grand-chose à voir. Pour autant, je pense qu'il reste vraiment chez nous cet esprit, en tous les cas, d'une forme de liberté d'esprit, de transparence, de volonté aussi de bien faire, d'être professionnel. Donc voilà, je pense qu'on a gardé un certain nombre de choses. Après, on est devenu une organisation beaucoup plus importante. Pour autant, il faut garder une certaine humilité. Hein. Notre budget, c'est ni plus ni moins qu'un budget d'un gros hôpital universitaire ouais. européen.
Même si, parmi les organisations, vous faites partie de celles qui ont le plus de marge financière. Ça n'est jamais suffisant, évidemment, mais voilà. Bah, MSF a cette caractéristique-là d'être un peu plus à l'aise que les autres.
De côté du volume ouais. financier, mais surtout aussi de ce qui a été développé par Médecins sans frontières, qui est ce qu'on appelle les fonds privés. Hein. Entre 97 et 99%, ça dépend des années, sont des fonds privés. On a plus de 7 millions de donateurs dans le monde. On a plus de 550 000 donateurs en France. Donc voilà, c'est la force des MSF aujourd'hui.
Et l'épisode de Covid, on en vient aujourd'hui, l'épisode de Covid a plutôt amené une hausse des dons et des donateurs. Au début, lors du premier confinement, on avait une inquiétude, ça a plutôt boosté les dons.
Alors, en tous les cas, chez nous, oui, c'est vrai que c'est notre cœur de métier. Donc,
apporter de l'aide médicale, voilà, évidemment.
C'est notre cœur de métier, la solidarité a été au rendez-vous, et en général, la solidarité est encore plus au rendez-vous quand ça touche vraiment tout le monde. Et là, on est sur quelque chose qui touche tout le monde. Les riches, les pauvres, les pays du Nord, les pays du Sud.
Alors justement, pays du Nord, pays du Sud, on sait à quel point aujourd'hui, Thierry Alafort du Verger, il y a un écart entre le vaccin dans les pays les plus riches et le vaccin dans les pays les plus pauvres. C'est là-dessus que se concentre l'action des MSF en ce qui concerne le Covid, aller vacciner dans le Sud, si j'ose dire.
Là, finalement, non. C'est surtout la prise en charge médicale.
Oui.
On s'est mis à disposition des gouvernements avec les mécanismes qui existaient. Donc, on a fait de la vaccination, pour en citer un, au Liban, par exemple. On est en discussion en Afghanistan aujourd'hui pour de la vaccination. Mais on a aussi essayé de faire de la prise en charge et puis aussi essayer de maintenir les soins qu'on apportait. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Vous avez dit, il y a vraiment cette différence entre l'accès au vaccin et ce qui est important. Il y a aussi peut-être une forme de diktat donné par les pays du Nord, si je peux le dire comme ça, sur les orientations qui doivent être prises. La vaccination pour tous, est-ce qu'il faut vraiment la vaccination pour tous et dans tous les pays de la même façon?
Oui.
Ça mériterait de regarder l'épidémiologie de l'épidémie.
Oui. Vous avez un exemple d'un pays où justement cette question pourrait se poser?
Bah, typiquement, il n'y a pas très longtemps, une collègue à moi qui rentrait du Niger et qui avait discuté avec des collègues médecins nigériens qui, eux, questionnaient la priorité vaccinale du Covid quand, aujourd'hui, leur problématique est plutôt le paludisme, la malnutrition qui est en plus, en ce moment, un vrai grave problème permanent dans le pays comme le Niger, le Mali, le Nigeria aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit naître une crise plus importante due à l'insécurité, à l'impossibilité des gens de cultiver, au déplacement de populations importants, et sûrement dû aussi aux effets économiques de la pandémie de Covid.
Donc l'action anti-Covid d'MSF, c'est beaucoup maintenir les soins sur place et les soins, y compris pour d'autres maladies qui risqueraient de pâtir de l'épidémie. Est-ce que vous êtes dans les négociations, notamment via le mécanisme Covavax, pour amener malgré tout le vaccin dans les pays qui en manque?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie, comment dire, réticence, égoïsme des pays les plus riches à partager ce vaccin? On sait que une des clés du problème pour éradiquer, je ne sais pas si c'est envisageable, mais en tout cas donner un coup un peu décisif à la maladie, c'est que le vaccin soit partout.
Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on participe? Oui, on a participé à de nombreuses réunions. Après, quelle place on a dans cette participation? Elle est très... je disais, on est une organisation privée importante, mais on n'est pas une organisation internationale.
Ouais.
Donc oui, on fait partie de ces discussions. Est-ce qu'il y a une réticence? Alors oui, on voit bien qu'il y a eu, et depuis le début de la pandémie... les batailles pour les... On n'a qu'à se rappeler de la bataille pour les masques.
Oui.
Vous voyez bien, nous-mêmes, on a vraiment eu en grande difficulté pour approvisionner nos terrains en équipement de protection.
Oui.
On a vu aussi pour les tests et pour la vaccination, c'est pareil. On a une forme de repli sur soi, sûrement. Après, ce que je disais, c'est vraiment de questionner aussi cette volonté. Il y avait un moment donné, on avait l'impression que les pays africains devaient aussi être en lockdown, enfin
en confinement.
En confinement, pardon. Alors que ça pouvait vraiment la question pouvait vraiment se poser.
Oui.
On voit bien que l'épidémie est pas la même de partout. On parle d'une pandémie, mais il faudrait peut-être regarder les différentes épidémies qui existent dans le monde et avoir une réponse plus appropriée. C'est sûr qu'il faudrait que toutes les personnes à risque dans le monde soient vaccinées. Et le profil des personnes à risque aujourd'hui, on le connaît, hein, c'est une personne d'un certain âge et c'est toutes les comorbidités. Donc ça, au minimum, et le personnel de santé. Après, le reste, je pense que ça mériterait quand même d'être regardé de plus près.
Et d'avoir une connaissance plus fine du terrain, si
tout
je suis bien. Question de Christine au standard, il n'y a évidemment pas que le Covid dans l'action des MSF. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Montpellier, vous vouliez parler de l'Afghanistan.
Oui, exactement. D'abord, bravo pour la qualité de vos émissions et pour les actions de MSF. Et je m'interrogeais pour savoir si MSF a actuellement accès à l'Afghanistan, s'ils ont une possibilité d'action ou pas. Et dans l'affirmative, comment peut-on aider, bien sûr, par le don général, mais est-ce qu'il y a une modalité particulière de d'aide?
Thierry à la Fort du Verger.
D'abord, merci beaucoup. Alors oui, on a accès. Comment dire, on a accès. On n'est pas parti d'Afghanistan malgré les événements de ces derniers mois. Et voire au contraire.
Ça veut dire qu'il y a combien de représentants d'MSF en Afghanistan aujourd'hui, locaux et éventuellement étrangers?
Alors je vais pas te donner un chiffre exact parce que je vais pas le savoir, mais plusieurs milliers.
D'accord.
Plusieurs milliers de collègues afghans et internationaux, alors pour les internationaux c'est quelques dizaines, sont présents sur différentes provinces de l'Afghanistan et étonnamment on va dire que pour le moment on est plutôt en augmentation de notre action pour différentes raisons. C'est que le gouvernement taliban qui arrive n'a pas administré un pays, il est difficile d'administrer le côté sanitaire aussi, il y a une limitation de l'aide internationale aujourd'hui et il y a une augmentation des problématiques de santé. Donc on a plutôt une phase où on peut négocier correctement notre accès et puis on peut dire qu'il y a plus ou moins, en tous les cas, une paix qui est installée à la limite de différents endroits en Afghanistan. Donc voilà. Donc on n'a pas vraiment de problème pour le moment pour déployer notre aide dans les différentes régions d'Afghanistan.
L'action n'est pas entravée. Quel regard, via votre action, vous avez sur la situation des femmes en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans? Est-ce que les femmes en demande de soins sont de plus en plus nombreuses? Alors, ou au contraire, est-ce que vous avez vu disparaître, qu'elles ne peuvent plus accéder à vos centres?
Alors c'est pas le cas aujourd'hui et c'est vrai qu'on y est très très attentif. On peut pas nous aujourd'hui le voir à travers les actions de soins que l'on mène.
Question via l'appli, question de Philippe qui est donateur à Metz. Pourquoi vous ne fusionnez pas avec Médecins du Monde alors que vous êtes un doublon, dit-il. J'imagine que ce genre de question revient régulièrement, mais manifestement ça intéresse les donneurs. Les donateurs.
Alors, c'est difficile. Je sais que c'est toujours très difficile. Et je vois, moi, dans ma famille, dans mes proches, la question me revient souvent. Mais MDM, MSF, quelle différence? Mais j'écoutais ce matin sur France Inter la rédactrice en chef de Marianne qui parlait des 50 ans d'MSF. Et voilà, par exemple, elle parlait du droit d'ingérence. Droit d'ingérence qui a été porté par Bernard Kouchner, un des créateurs de Médecins Sans Frontières, mais que Médecins Sans Frontières n'a jamais défendu. Bien au contraire, a plutôt très souvent dénoncé par rapport à ce qu'elle disait aussi à la réalité de la politique. Et on ne pensait pas que la politique avait disparu et qu'on était bien obligé de négocier notre espace, que ça soit avec un État ou un groupe qui tient une région de fait, par les armes ou autre. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup de différends et aujourd'hui, comment décrire les différents points de vue de MDM et d'MSF?
Au fond, les gens qui nous écoutent, est-ce que ça doublonne ou ça se cumule? C'est-à-dire, le fait qu'il y ait deux associations de cette nature-là, ça permet un champ d'action plus large ou il y a des doublons?
Alors, typiquement, pour Médecins du Monde, ils ont un champ d'action en France qui est beaucoup plus important que le nôtre. À l'inverse, je pense qu'en international, il n'y a pas de commune mesure entre Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde aujourd'hui par le nombre de pays, par le nombre d'actions, par le nombre de personnes soignées. Donc il y a une vraie différence et là c'est plutôt un plus. Et après, on a par moment des points de direction commune et des points de politique divergente.
En France, est-ce que vous intervenez auprès des migrants en tant que Médecins Sans Frontières?
Oui, alors c'est vrai qu'on on intervient peu et on a beaucoup... Pendant des années, on a eu une période assez importante à l'époque de la CMU. On avait vraiment porté
couverture médicale universelle.
Et on avait beaucoup porté ce combat. Puis petit à petit, on s'était retiré des actions en France. Et puis quand ça a pris une ampleur importante et entre autres avec le camp de Grande-Synthe qu'on avait beaucoup appuyé il y a quelques années. Donc là aujourd'hui, on a des actions à Paris, entre autres pour ce qu'on appelle les mineurs isolés. Avec un centre de jour à Pantin et puis des centres d'accueil, il y en a un qui est à Neuilly-Plaisance entre autres.
C'est possible sans difficulté, sans barrière d'intervenir pour aider les migrants aujourd'hui en France ou c'est compliqué?
C'est clair qu'on voit bien que les politiques migratoires européennes sont très contraignantes hein, et on a vu et puis
et ça a tendance à s'accentuer.
Alors c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Aujourd'hui, on a toujours, nous, un bateau en Méditerranée. On a peut-être un peu moins de problèmes pour trouver des ports d'accueil. On est peut-être moins médiatiquement mis en avant, entre autres, par des accusations, voire des procès qu'on nous a fait un peu d'être proche des passeurs et les accusations qui ont été portées, entre autres, par le gouvernement italien, mais pas que. Pour autant, on voit bien aujourd'hui, nous, on a toujours des actions en Libye où c'est toujours la même catastrophe, des camps où les gens sont enfermés, où il y a énormément de violence. Et on voit bien que l'Union européenne continue à financer les gardes-côtes libyens qui ramènent des gens en Libye. Donc, non, il y a une politique migratoire. Et là, je pense que ça va être très difficile dans les mois qui viennent, entre autres en période présidentielle, pour faire évoluer cette politique. Et on verra un peu plus tard si on peut y arriver. Mais honnêtement, on sent bien que là, on reparlait de la réelle politique et que c'est des politiques très contraignantes.
Thierry Alafort du Verger, merci beaucoup, directeur général de Médecins sans frontières en France, d'être venu dans les studios de France Inter MSF qui fête ses 50 ans cette semaine. Ce sera jeudi, le jour exact.
Oh, alors là, aujourd'hui, c'est le jour où les gens s'étaient réunis. Oui. Après-demain, c'est le jour où ils seraient allés en préfecture. Et deux mois plus tard, c'est là où ça sera au journal officiel.
Bon, c'est cette semaine. Donc, merci en tout cas d'être venu. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire, il y a 60 ans, les premières manifestations anti-OAS. Notre feuilleton, une semaine dans la vie d'un prêtre à l'approche de Noël. Et tout de suite, la musique. Bonjour Anna Sigalevitch.
Bonjour Bruno.
C'est avec vous la musique. Cette semaine, on parlera classique avec vos invités. Sous ce titre, La vie serait moins belle sans... C'est donc une série de chroniques que vous nous proposez pour les vacances. Des personnalités nous parlent de classiques. On rencontre qui aujourd'hui ?
On rencontre l'acteur et réalisateur Elie Semoun. Pour lui, la vie serait moins belle sans... Bonjour Elie Semoun.
Bonjour Anna.
Qu'est-ce qu'on écoute, Elie Semoun ?
Eh bien, nous écoutons, chère Anna, le prologue du Crépuscule des dieux de Richard Wagner.
Donc la troisième journée, le quatrième opéra de la tétralogie.
Exactement.
Comment est-ce que vous avez rencontré Wagner, Elie Semoun ?
Eh bien, ma chère Anna, j'ai rencontré Wagner chez mon oncle Adrien et chez ma tata Colette. J'étais adolescent, j'étais en Bretagne et mon oncle et ma tante étaient fous de Richard Wagner. Et le soir, on était obligé de se taper des soirées Wagner. C'est-à-dire qu'ils mettaient un disque et on écoutait Tristan, on éteignait la lumière, on se couchait sur les fauteuils et on écoutait ça. Je vous prie de croire que quand j'étais ado, je m'en foutais, mais complètement. Et ben, c'est une musique tellement hypnotisante qu'elle m'a pris dans ses bras et qu'elle m'a emmené jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce que vous ressentiez adolescent quand vous écoutiez ? Est-ce que c'était vraiment des sensations physiques en écoutant Wagner ?
Oui, c'était physique et c'est encore physique parce que j'ai eu la chance d'aller comme vous à Bayreuth. Alors ça peut faire peur de loin parce que chaque opéra dure 5 heures. Alors quand je dis ça aux gens, ils me disent « mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder ?» Et ça passe, on a l'impression en une minute et on passe par tous les sentiments. La curiosité, la frayeur, la passion... On est complètement hypnotisé. Moi, je peux m'endormir sur cette musique, pas à l'opéra. Hein. Je mets la fin du Crépuscule des dieux et je m'endors avec ça. C'est une musique, je vous dis, totalement hypnotique.
Et qui vous met dans un état un peu d'extase.
Oui, complètement. C'est un orgasme musical. Mais je crois d'ailleurs, j'ai vu sur l'échelle, sur le degré des orgasmes, que l'orgasme musical était un des plus forts. Et c'est vrai que quand on est parcouru de frissons, quand on pleure à la fin de Tristan, quand on pleure à la fin de la Valkyrie, enfin c'est des émotions que j'ai jamais ressenties, c'est incroyable.
Vous avez choisi de parler du Ring. Qu'est-ce que ça raconte pour vous, le Ring ?
L'amour, la tragédie de l'amour, la tragédie d'un père qui doit se séparer de sa fille, un amour étrange entre un frère et une sœur,
Zinglind et Zingmund.
Voilà, exactement, dans la Valkyrie. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils couchent ensemble et ils font un enfant qui va devenir Siegfried. Siegfried qui va, lui, tomber amoureux de Brunhild, qui est la fille de Wotan. Tout le monde est largué, donc son grand-père. Tout le monde couche avec tout le monde. Et puis à la fin, le crépuscule des dieux, un de mes opéras préférés, où tout s'écroule, en fait, la vanité des hommes, leur caprice, leur désir, leur jalousie, tout s'écroule. C'est un monde à part entière, c'est complètement fou.
Avec quel morceau vous voulez qu'on se dise au revoir, Elie Semoun ?
Alors on va peut-être se quitter sur la fin de la Valkyrie. Donc j'explique, c'est donc un père qui va se séparer de sa fille. C'est un déchirement pour lui. Il va mettre Brunhild sur un rocher, il va l'entourer de flammes et elle ne sera délivrée que par un homme qui n'a peur de rien. Donc c'est ce déchirement-là, ils se disent adieu, ils se disent qu'ils s'aiment, c'est sublime.
Merci Anna Sigalevitch. Demain,
Bruno.
Demain, vous serez avec qui ?
Avec Nicole Garcia.
Très bien. Et la chronique est réalisée par Anne Weinfeld. 13h50. C'est l'heure du feuilleton et jusqu'à vendredi, soir de la messe de Noël pour les chrétiens, une semaine dans la vie d'un prêtre. Il s'appelle Stéphane Lessonne, il exerce à Saint-Renan dans le Nord Finistère. Vous allez voir, il parle très directement. En Bretagne comme ailleurs, le rapport sur les agressions sexuelles au sein de l'Église ont provoqué stupeur et remise en cause. Il en sera évidemment question cette semaine. Mais d'abord, dans cet épisode, mesurons la charge de travail d'un prêtre. Elle augmente au fil de la crise des vocations et donc du manque de main-d'œuvre, si l'on ose dire, dans l'Église. La paroisse de Stéphane Lessonne couvre 24 clochers, 25 communes, dont deux îles, Molène et Ouessant. Est-ce une activité solitaire ou pas ? Il est question du célibat dans cet épisode et de tous ceux qui entourent les prêtres pour l'exercice de leur ministère, laïcs, salariés ou bénévoles, et aussi dans leur vie personnelle. Feuilleton signé Jérôme Cadet.
Bienvenue chez moi. 24 heures au presbytère, monsieur Cadet, ça va aller, ça va aller.
Bonjour.
Enchanté. Clotilde est ma secrétaire.
Je pouvais juste vous mettre des petites choses ou pas ?
Oui, non, non, oui. Si, bien sûr.
Il y a des documents à signer ?
Alors, à signer, non, mais à contrôler. Parce que comme j'ai fait tous les feuillets de chant de Noël, je préfère que le père Lessonne confirme que tout est bon avant d'imprimer et de diffuser.
Et là, elle est en train de commander des livres de caté, c'est ça ?
Non, je suis en train de régulariser des factures.
Bah, oui,
c'est moins intéressant.
Oui, c'est moins intéressant.
Il y a un couple là qui vient de partir, ils venaient pour une démarche particulière.
Ce sont des personnes qui viennent de préparer les obsèques de leur maman et donc ils ont rencontré une dame qui a été chargée de préparer la célébration des obsèques au nom de la paroisse. Là, je suis resté parler un peu avec eux parce que j'étais dans le couloir et je les ai rencontrés et c'était important qu'ils sachent que c'est moi qui vais célébrer les obsèques demain. Et donc je leur ai dit, ben voilà, je serai là et j'ai demandé un peu à connaître un peu mieux leur maman ou leur épouse pour le monsieur.
Je présente Jérôme. Jérôme est journaliste.
Bonjour.
À France Inter.
Il y a beaucoup de gens qui poussent cette porte ?
Oh oui, là ce matin j'ai eu quelques coups de fil quand même.
Et l'accueil est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Aujourd'hui c'est Marie-Rose, demain ça sera quelqu'un d'autre, etc.
Oui.
Vous êtes une quinzaine de bénévoles à peu près, hein ?
Oui, à peu près.
Ouais,
oui.
Ouais.
Il y a toujours du monde en fait dans cette maison.
Ah bah si tout va bien, le prêtre n'est certainement pas quelqu'un de solitaire parce qu'il est en contact avec des centaines de personnes qu'il côtoie. Mais il peut se traduire des fois une certaine solitude à porter la charge, parce que la charge quand même tu la portes tout seul. Il faut être au clair avec la solitude. Mais en même temps, il faut arrêter le cliché de dire que le prêtre il est seul, etc. Non, c'est pas vrai. On est très entouré et des fois on cherche cette solitude-là.
Très entouré, mais sans famille, sans femme ou sans compagnon, sans enfant. Ça c'est quoi ? C'est un renoncement ?
Oui, en fait c'est une réflexion plutôt. On parle aujourd'hui beaucoup du célibat des prêtres et je comprends, c'est une question que moi je comprends assez bien. Mais moi je dis souvent, pour ceux qui me concernent, je vais surtout pas pour les autres, je veux dire pour moi, je n'aurais pas pu et je ne peux pas concevoir mon ministère comme marié. parce que vu la vie que je mène, c'est une vie parfois trépidante, etc., j'aurais pas pu rendre ni ma femme ni mes enfants pleinement heureux, en étant très éloigné, et puis en étant occupé avec plein d'autres, mais pas assez avec celles que j'aurais pu choisir, ou ceux et celles qui seraient devenues mes enfants, quoi.
Est-ce qu'il y a un peu une hypocrisie autour de ça ? Il y a des prêtres qui vivent en concubinage, plus ou moins déguisés, sans l'avouer.
Personnellement, j'en connais pas. Alors peut-être, ils vont pas le crier sur tous les toits non plus, hein. Un prêtre doit pouvoir apporter le Christ. Si le prêtre est facteur d'unité, c'est un bon prêtre. S'il est un facteur de division, c'est un mauvais prêtre. Le prêtre, c'est pas un type un peu à part. C'est un homme. Et un homme, il a ses questions, il a sa manière d'être, sa vie, etc. Et il peut se poser cette question-là. Moi, je me la pose pas pour le moment. Arrivé à 50 ans, je suis très heureux de ma vie de prêtre. Je me pose pas la question d'une vie de famille parce que je l'ai pas envisagée au départ et que je la vis pas comme un manque. Tu disais qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, si, si, hein, moi j'ai une famille.
J'ai pas dit pas d'amis, hein. J'ai dit pas de femme, pas de compagnon ou pas d'enfant.
Ça me fait pas pareil. Pas de femme, pas de compagnon, pas d'enfant. Non, j'ai pas. Mais des amis, j'en ai plein. Et ils me permettent, justement, d'avancer dans la vie avec toutes les questions que je peux avoir à porter, mais qui font que ben, je passe au-dessus pour le moment et que ma vie, pour le moment, elle me va bien comme ça. Mais je dis pas que c'est facile tous les jours. Quand t'as eu une journée de merde, eh ben, tu rentres le soir chez toi, t'es tout seul et tu dis ben, on verra demain ce que ça donnera et demain c'est reparti.
Une semaine dans la vie du prêtre Stéphane Le Sonne à Saint-Renan en Nord-Finistère. Nouvel épisode demain, réalisation signée Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, c'était il y a 60 ans, à un jour près, les premières manifestations anti-OAS pendant la guerre d'Algérie. Décembre 61, la guerre entre dans sa sixième année, des négociations de paix se profilent à l'horizon. Nous sommes à 3-4 mois des accords d'Évian. L'organisation armée secrète veut empêcher les négociations. Elle mène une stratégie de tension à coups d'attentats à laquelle le pouvoir gaulliste répond directement. L'OAS est alors dirigée par Raoul Salan, ex-général putschiste contre De Gaulle, entré dans la clandestinité. Voilà pour le contexte. En ce 19 décembre 1961, Jean Lebrun, lorsqu'arrive la réponse des syndicats.
Et pour la première fois, en écho, trois grandes centrales organisent un arrêt de travail, jusqu'ici à la Radio Nationale, sur le thème « L'OAS ne passera pas ». Quand on dit « Delta » à la fin de l'année 61, c'est au commando meurtrier de l'OAS qu'on pense, Delta 1, 7, 9, etc., chacun recevant quotidiennement son programme d'attentat à réaliser. Exemple, 18 décembre, rien qu'à Alger, sont assassinés 4 musulmans, à qui il faut ajouter un boulanger juif. Des dizaines d'Européens se réunissent aussi devant un bar Algérie française, on chante la Marseillaise, face à une banderole, nous sommes victimes du gaullisme. Le bar, le cardinal, a en effet été plastiqué par des anti-OAS. Des gaullistes ont décidé à cette époque de rendre coup pour coup. À la terreur, répondons par la terreur. Le journaliste Lucien Baudard a titré un article début décembre « Les barbouzes arrivent à Alger ». Alors parmi les barbouzes, le fameux Dominique Ponchardier, surnommé Bibi Fricotin, auteur de la série policière « Le Gorille », à ses hommes qui vont composer le groupe « Le Talion », il fait prêter serment sur un colt. Alors inutile de dire que les méthodes d'interrogatoire des barbouzes n'ont rien à envier à celles de l'OAS et inversement.
Et que se passe-t-il en métropole ?
Le premier attentat visant le général de Gaulle a eu lieu en septembre. Salan a envoyé de ce côté de la Méditerranée l'ex-capitaine Sergent pour organiser des événements. Le maire de la ville d'Évian, où se préparait un premier round de négociations, a été ainsi assassiné alors qu'il n'en pouvait mais. Non plus que les victimes d'un déraillement organisé le 28 juin à Vitry-le-François. En décembre, Salan dépêche en France Canal, dit le monocle, qui va déborder Sergent sur sa droite en préparant des nuits bleues. Des explosions un peu partout au même instant.
Et la violence peut opérer une séduction. L'OAS dispose de relais en métropole.
En témoigne un meeting le 16 novembre à Paris. Le commissaire Dide, conseiller de Paris, à Colosse, et le fluet Georges Bidault, ben oui, l'ancien président du CNR de 1944, en appelle à la résistance dans un climat électrique qui impressionne l'opinion. Et encore, la salle de la mutualité ne peut contenir que 3000 participants.
La gauche, très divisée,
est d'accord, cela dit, pour reprocher au gouvernement de Gaulle une politique illisible.
Son préfet de police, c'est Maurice Papon, ne prend-il pas plus de précautions avec les partisans de l'Algérie française qu'avec le FLN, dont la manifestation, le 17 octobre, a été férocement réprimée, des dizaines de morts? Les méthodes auxquelles les Français s'habituent ne mènent-elles pas au fascisme? Le mot revient sans cesse chez les orateurs de gauche qui rappellent que le pouvoir gaulliste procède d'une origine impardonnable, le coup d'éclat du 13 mai 58.
Et l'arrêt de travail du 19 décembre 61 est accompagné d'une manifestation.
20-30 000 personnes peut-être, mais il faut dire que cette manifestation a été interdite et que la police a empêché tout cortège de se former. On en est là, en France, il y a 60 ans précisément. Que va-t-il se passer dans les 3 mois qui séparent ce moment de la signature des accords d'Évian? Et que se passera-t-il en mars prochain quand il s'agira d'en rappeler le souvenir 1 mois avant la présidentielle?
Jean Lebrun, la marche de l'histoire à demain. Jean et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La terre au carré après les infos, comme ça le corbeau est intelligent.
Absolument, on va parler à la fois de sa sale réputation mais aussi de son intelligence remarquable.
À tout de suite.